RF.
RFI 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la fin de la réunion de crise des Européens à Paris. Objectif, afficher un front uni après le début de dialogue sur l'Ukraine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Mais les Européens ont aussi étalé leur division sur l'envoi de troupes de maintien de la paix. À Paris toujours, premier jour du procès de membres du groupe État islamique accusés d'avoir été les geôliers de journalistes français en 2013. Un des accusés, Mehdi Nemouche, a déclaré dès l'ouverture de l'audience « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit ». En RDC, comme le président du Burundi, celui du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale. Hier, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Enfin, dans ce journal, on parlera aussi des algues rouges toxiques qui atteignent aux États-Unis certaines plages de Floride et dont la présence s'intensifie à cause du changement climatique. Réunion d'urgence ce lundi à Paris. Des dirigeants de plusieurs pays européens se sont rencontrés cet après-midi à la demande du président français Emmanuel Macron pour parler sécurité européenne et Ukraine. La semaine dernière, le président américain Donald Trump avait eu au téléphone son homologue russe Vladimir Poutine et les Européens avaient eu la désagréable impression que les deux dirigeants allaient négocier entre eux la fin de la guerre en Ukraine avec des Européens cantonnés au rôle de spectateurs. Aujourd'hui à Paris étaient représentés une dizaine de pays européens, dont le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Pologne, mais aussi des organisations comme l'Union européenne et l'OTAN. Daniel Valo, bonsoir.
Bonsoir.
Le sommet est terminé, mais pour le moment, pas d'annonce ou de déclaration commune.
Oui, il s'agissait d'une réunion informelle qui ne devait aboutir sur aucune décision majeure, mais dont l'objectif était de se concerter, de ne pas rester les bras croisés face à cette accélération soudaine de l'histoire à laquelle les Européens assistent depuis la semaine dernière. Avec une première question majeure sur la table, faut-il envisager d'envoyer des troupes en Ukraine en cas d'accord de cessez-le-feu ? Certains pays, la Suède ou le Royaume-Uni, se sont déclarés officiellement prêts à le faire, mais d'autres refusent encore de l'envisager. Olaf Scholz, le chancelier allemand qui a quitté la réunion avant la fin, a même dit tout à l'heure qu'il trouvait hautement inapproprié d'en discuter pour le moment.
Et l'autre grande question, Daniel, c'est la capacité des pays européens à assurer leur propre défense.
Et il y a urgence car les Européens sont clairement bousculés, désemparés face aux déclarations très virulentes venues de leur allié américain depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Il faut des mesures concrètes concernant nos propres capacités de défense, a ainsi déclaré ce lundi Donald Tusk, le chef du gouvernement polonais qui plaide pour des investissements massifs dans la défense, rappelant que son pays, la Pologne, consacre déjà presque 5% de son PIB à ses capacités de défense.
Merci Daniel Valo. On s'en va au Liban maintenant. Selon l'accord de cessez-le-feu, Israël était censé avoir achevé le 26 janvier son retrait du Sud-Liban. L'échéance avait ensuite été repoussée au 18 février, demain donc. Mais ce lundi, un porte-parole de l'armée israélienne a annoncé le maintien de troupes sur 5 positions dans le Sud-Liban, de manière temporaire, afin, a-t-il dit, de continuer à défendre nos habitants et de manière à nous assurer qu'il n'y a pas de menace immédiate. Avant cette annonce, le président libanais Joseph Aoun avait appelé les garants de l'accord, notamment les États-Unis et la France, à faire pression sur Israël. La France, justement, le procès des geôliers présumés du groupe État islamique s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. 5 hommes sont accusés d'avoir participé à la séquestration en Syrie d'otages occidentaux en 2013 et 2014, dont 4 journalistes français. Au nombre des mises en cause, Mehdi Nemouche, déjà condamné à perpétuité pour l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, qui avait fait 4 morts en mai 2014. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
Si les faits sont anciens, ils datent de 2013-2014, ils montrent clairement l'évolution de la stratégie du groupe terroriste pour cibler les Occidentaux. Un groupe qui s'appelle encore État islamique en Irak et au Levant au moment des enlèvements et va se structurer pour se proclamer État islamique en juin 2014, 2 mois après la libération des Français. Avec le recul, on voit bien, au travers de ces exactions menées sur le sol syrien et des profils des personnes qui en seraient les auteurs, la matrice des projections à venir de djihadistes en Europe et le rôle central de la filière franco-belge. Mehdi Nemouche, français et geôlier présumé, sera ainsi le premier à revenir de Syrie pour frapper le musée juif de Bruxelles. Le belge Najim Lachraoui avait également été identifié comme geôlier. S'il n'est pas poursuivi, c'est parce qu'après avoir été l'artificier des attentats du 13 novembre 2015 en France, il sera l'un des kamikazes des attentats de Bruxelles en mars 2016. Or, l'homme qui a été condamné à perpétuité, en France comme en Belgique, pour avoir commandité ces deux attaques, c'est le belge Oussama Attar, Justement, l'un des deux accusés absents du procès est présumé mort. Le second, le français Salim Ben Galen, considéré comme le chef de la détention des otages, était lui un proche de Chérif Kouachi, l'un des terroristes des attentats de janvier 2015.
En France, toujours, un avocat demande l'ouverture d'une enquête pour entrave à la justice dans l'affaire du viol commis en 1998 dans l'établissement de Bétarame. Hier, un ancien gendarme avait évoqué sur TF1 une intervention de François Bayrou auprès de la justice de l'époque. Samedi, le Premier ministre avait rencontré des victimes de Bétarame. Il avait défendu son action lorsqu'il était ministre de l'Éducation et promis des moyens supplémentaires aux victimes.
RFI, les voix du monde.
La Chine connaît un ralentissement économique, mais les défis auxquels est confronté le secteur privé peuvent être surmontés. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le président chinois Xi Jinping, qui était en réunion ce lundi avec justement plusieurs chefs d'entreprises privées. Depuis un an, la Chine a multiplié les ouvertures à l'égard des entreprises privées et des investisseurs pour renforcer leur confiance, alors que la demande intérieure reste faible et que de nouveaux défis se posent avec le second mandat du président américain Donald Trump. Correspondance Claire Broadhurst.
Une rencontre de haut niveau avec des figures incontournables. Yan Zhenfei, fondateur de Huawei, Wang Xuanfu, patron du géant des véhicules électriques BYD, Robin Zheng, à la tête du leader mondial des batteries CATL, ou encore Wang Xing, cofondateur de la plateforme de livraison Meituan. Mais aussi des entrepreneurs de la nouvelle génération comme Liang Wenfeng, créateur de DeepSeek, le modèle d'intelligence artificielle chinois. La présence de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, suggère qu'il est en train de retrouver sa place parmi les géants après une longue période où il a dû rester discret sous la pression des autorités. Cette réunion intervient alors que la Chine peine à relancer son économie. Avec une croissance de 5% l'an dernier, l'une des plus faibles depuis des décennies, Pékin cherche à rassurer les investisseurs et encourager l'innovation sur le marché intérieur. Le message est clair, après des années de restrictions, le gouvernement veut un climat plus favorable aux entreprises. Xi Jinping mise sur la technologie pour renforcer l'indépendance du pays et réduire sa dépendance aux géants américains, tout en montrant que la Chine reste un acteur majeur de l'innovation en pleine tension commerciale. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
La guerre dans l'Est de la RDC. Après le président du Burundi, c'est au tour de celui du Congo-Brazzaville d'exprimer des inquiétudes. Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale. Hier, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Une occupation confirmée et dénoncée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Plusieurs chancelleries occidentales ont aussi condamné l'occupation de la ville où la situation était relativement calme aujourd'hui. Des chancelleries qui demandent à Kigali le retrait de ses soldats du sol congolais et l'application d'un cessez-le-feu. L'hospitalisation du pape va se prolonger jusqu'à mercredi au moins, c'est ce qu'a annoncé le Vatican, qui parle d'un tableau clinique complexe. Le pape François, âgé de 88 ans, est hospitalisé depuis ce vendredi à Rome. C'est sa quatrième hospitalisation en moins de 4 ans, cette fois pour une infection des voies respiratoires. RFI, 15h08 à Miami. La côte sud-ouest de la Floride aux États-Unis fait face en ce moment à une véritable marée rouge. Des algues microscopiques prolifèrent dans le golfe du Mexique et elles ont atteint certaines plages. Problème, ces algues produisent une toxine dangereuse. Alors, c'est vrai, le phénomène est fréquent à cette période de l'année en Floride, mais il a tendance à s'intensifier à cause du changement climatique et de la pollution. Lucille Gimbert.
Plusieurs comtés de Floride ont émis des alertes sanitaires car ces nappes brunes ou rouges dans l'océan, signe de la prolifération de l'algue Karenia brevis, peuvent causer des irritations de la peau et des problèmes respiratoires aux baigneurs et aux promeneurs sur les plages. Inhaler la toxine que produit cette algue rouge est dangereux, en particulier pour les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques. C'est aussi très mauvais pour la vie marine. Ces algues prolifèrent quasiment chaque année dans le golfe du Mexique, mais l'intensité de ces marées rouges augmente depuis quelques années et elles s'étendent parfois après le mois de janvier. En 2021, le phénomène avait causé la mort de très nombreux poissons, dauphins et lamantins. Les ONG environnementales reconnaissent que le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a fait des efforts pour financer la recherche sur la gestion de ces marées rouges, mais elles déplorent qu'il ne s'attaque pas aux causes. Selon elles, le ruissellement d'eau agricole contaminée, notamment aux produits chimiques, aggrave ces marées rouges. On sait aussi que le réchauffement des océans causé par notre utilisation du pétrole, du charbon et du gaz, intensifie la prolifération des algues.
Lucille Gimbert, et on reste dans la région pour clore ce journal, puisque, selon la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, si Google continue d'appeler sur ses cartes le golfe du Mexique « golfe d'Amérique », le Mexique poursuivra l'entreprise en justice. Rappelons que Donald Trump a signé fin janvier un décret ordonnant le changement de nom de cette mer située au sud-est des États-Unis. RFI, 21h10 à Paris.